Culte du 26 octobre 2008. Prédication apportée par le pasteur Alain Ouvrard. Thème utile.
On a déjà, mais... Eh bien, on a pensé que ce serait très bien pour notre groupe de jeunesse de pouvoir faire un échange avec d'autres jeunes d'une autre église. Et c'est vrai que nous nous réjouissons beaucoup de les avoir à Saint-Nazaire pour ce qu'ils nous apportent, ce qu'ils nous communiquent. Et c'est vrai que nous avons besoin de prier pour notre jeunesse. C'est formidable de voir des jeunes qui se lèvent pour Jésus-Christ, hein, qui s'engagent, et qui commencent dans leur vie eh bien, avec des assises sûres. Voilà. Construire sur le rocher. Et c'est important. Alors je vous demanderai de prier pour eux, de se souvenir que dans nos églises, nous avons quand même une jeunesse et une belle jeunesse, et qui veulent faire la volonté de Dieu, qui veulent construire avec le Seigneur. Et c'est véritablement le gage eh bien, d'une réussite de vie. Alors que Dieu les bénisse. Alors, on va les avoir encore cet après-midi, on en reparlera tout à l'heure. Alors, le thème développé va avoir quand même un rapport avec la jeunesse. Je m'adressais à la jeunesse, mais pour tous les autres qui ont dépassé 25 ans, vous pouvez quand même entendre, écouter. Vous êtes autorisés. Hein. Donc, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une méditation dans la Bible. Dans l'Écriture sainte, c'est vrai qu'il s'agit d'un thème de jeunesse, mais par-delà, eh bien, le sujet est le sujet qui nous concerne tous. Nous sommes avant tout des disciples. Et j'aimerais parler justement de la condition de disciple. Tous ces garçons et ces filles, d'ici quelque temps, eh bien, vont avoir une lourde tâche, une lourde responsabilité. Non seulement dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, mais dans leur vie spirituelle. Parce que c'est eux qui vont reprendre de nos mains le flambeau et le communiquer à la génération ou aux générations qui vont suivre. Et c'est une responsabilité. J'aimerais les encourager et j'aimerais, à travers ces quelques paroles, eh bien, leur donner tout simplement la grâce que Dieu communique pour pouvoir être des témoins dans ce monde. Jésus nous a dit que nous étions le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, il faut que le sel garde sa saveur et que la lumière brille toujours et encore. Nous allons passer simplement un petit, avant de lire notre texte, un petit transparent. Alors, on va le découvrir ensemble, si vous voulez bien. Et ça sera le thème de notre réflexion, de notre méditation. Alors voilà, il va monter au fur et à mesure. Je m'appelle Onésime. Est-ce que quelqu'un s'appelle Onésime au milieu de nous? C'est quand même assez rare. Il faut bien le reconnaître. Et mon nom veut dire utile. Avant ou auparavant, j'étais esclave et maintenant, je suis vraiment libre. Alors nous allons méditer sur ce qui vient ensuite, sur ces mots qui vous apparaissent, devenir, disciple, authentique, utile et fidèle. Et nous allons nous servir de l'histoire d'Onésime pour cela. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, c'est bon. On le repassera peut-être de temps à autre, hein, quand on tombera sur les sujets. Dans l'Épître, alors d'abord, où trouve-t-on l'histoire d'Onésime? Alors c'est les jeunes qui vont me répondre, hein, s'il vous plaît. On va faire un petit test. Dites-moi, je vous laisse 2 minutes pour trouver dans toute votre Bible, de Genèse à l'Apocalypse, où vous l'avez. Où vous avez l'histoire d'Onésime? Alors, dites-moi, Ça vous dit pas quelque chose? Ah, ça vous dit quelque chose, mais vous savez pas. Oui, j'ai entendu. Philémon. Mais on a soufflé derrière. Non? Bon. Non. Alors, on va lire dans l'épître à Philémon. Alors, je ne vais pas vous parler de chapitre, il n'y en a pas. Par contre, je peux vous indiquer le verset. On va commencer à partir du verset 8. Ça se trouve où, Philémon? Alors là, c'est encore des questions. Hein. Vous cherchez dans l'Ancien Testament? Vous allez chercher longtemps. Dans le Nouveau Testament, c'est une toute petite lettre, une petite épître. On pourrait dire tout simplement, eh bien, une missive. Et ça se trouve après Tite et avant Hébreu. Très bien. On voit qu'il y a des biblistes au milieu de nous. Alors, Philémon, verset 8, et je lis ceci. « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi, et à moi, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. » Voilà ce que Paul, arrivé probablement au grand âge, écrivait à un de ses amis que l'on appelle Philémon, et l'apôtre Paul plaidait en faveur d'un jeune homme qu'il avait rencontré dans des circonstances tout à fait particulières, dont je vais vous dire rapidement, et bien là, vous rapportez tout simplement la manière dont Onésime s'est converti à Jésus-Christ. Je reviens sur ce texte. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Que raconte l'épître de Paul à Philémon? Il n'y a que quelques versets, mais c'est l'histoire d'une vie formidable et extraordinaire. Les circonstances, permettez-moi de le dire, les circonstances de l'épître et de l'appel de Dieu particulièrement, les circonstances de l'appel de Dieu sont étonnantes et inédites. Chacun d'entre nous, nous pourrions raconter une histoire différente. La manière dont Dieu nous a touchés, l'âge auquel nous avons été appelés et peut-être l'âge aussi auquel nous avons répondu, parce qu'entre le moment de l'appel et le moment où nous répondons, il peut y avoir véritablement du temps qui se passe. Mais nous sommes toujours émerveillés de voir que le regard de Dieu, la manière de Dieu de chercher des hommes, de les appeler, de les établir, est quelque chose d'assez tellement divers et tellement formidable. Philémon, auquel l'apôtre Paul adresse cette petite lettre, est un maître chrétien. C'est vraisemblablement un maître riche, et qui possédait des esclaves. La preuve, on va le découvrir. Donc, Philémon était un chrétien. Il avait été vraisemblablement touché par la grâce de Dieu sous le ministère de l'apôtre Paul, auquel Paul avait annoncé l'évangile à lui et à toute sa famille. Et il était devenu chrétien. Et il avait un esclave qui s'appelait, qui avait pour nom Onésime. Lequel Onésime, comme cela probablement devait arriver fréquemment dans ces temps troublés de l'esclavage, ces temps anciens de l'esclavage, s'était enfui de la maison de son maître. Vous savez qu'un esclave, il était dans une maison à vie. C'était comme cela et c'était une terrible condition pour certains. D'autres étaient certainement plus heureux. Et probablement un jeune homme, il s'était dit, moi, je ne veux pas vivre la vie d'esclave. J'ai un maître, mais je vais m'enfuir de sa maison. Et il était parti. Il était recherché. Peut-être avait-il, certains commentateurs ont supposé qu'il était parti après avoir volé son maître. Et il était parti très très loin. Et Onésime, avait pensé que le meilleur refuge qu'il aurait trouvé, c'était d'aller dans la capitale de l'Empire, c'est-à-dire à Rome. Et il était parti, il s'était réfugié, donc c'est historique, il s'était réfugié à Rome, croyant passer dans cette grande ville incognito et que personne ne le retrouverait, surtout pas son maître. Alors, il était parti comme ça. Mais il va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison avec un autre prisonnier. Et curieusement, cet autre prisonnier est un homme qui est innocent, il est enfermé injustement, et cet homme, eh bien, s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Vous connaissez son histoire, le livre des Actes nous en parle naturellement. Et il va se retrouver dans la même geôle. Et voilà des compagnons d'infortune dans les chaînes. C'est les termes qui sont employés. Alors à ce moment-là, Paul, comme nous le connaissons, va certainement nouer une relation avec Onésime. Onésime va lui raconter son histoire. Et Paul, en entendant l'histoire de sa fuite, probablement de son vol, va se souvenir que dans cette maison-là, il y a des chrétiens. Philémon est converti, lui et toute sa famille. Et l'apôtre Paul va entretenir, et je m'imagine probablement pendant très longtemps, parce que dans une prison on n'a pas grand-chose à faire, il va lui parler. Il va lui parler du salut en Jésus-Christ. Il va y avoir un travail qui va se faire, un travail profond. Au départ, peut-être qu'Onésime ne veut pas entendre Paul. Mais au bout d'un certain temps, Paul revient à la charge continuellement, et il n'a pas d'autre affaire, il n'a pas d'autre moyen de fuite. Là, il est en prison avec cet autre homme qui se dit chrétien, qui se dit apôtre de Jésus-Christ, évangéliste. Alors il va lui parler du salut en Jésus-Christ, et à un moment donné, Onésime se convertit. Il y a là quelque chose qui va se faire dans son cœur au plus profond de lui-même. Il rencontre Jésus-Christ, il va se repentir de ses péchés. Il va se tourner et donner son cœur à Jésus, et voilà un homme qui est né de nouveau. Et il découvre la vraie liberté. Celle qu'il pensait trouver en fuyant la maison de son maître, la vraie liberté, lui, l'esclave, il naît de nouveau. Ça, c'est un thème très très fort, naître de nouveau. On peut être esclave, on peut être voleur, on peut être menteur, on peut être tout ce que l'on veut. Rencontrer Jésus-Christ nous donne une nouvelle identité, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et c'est ça, naître de nouveau, je me permets de le rappeler au passage. Or, circonstance dont Dieu seul a le secret, Paul connaît Philémon, le maître d'Onésime. Il le sait, il le connaît. Et on ne peut pas parler de hasard. Le hasard, permettez-moi de l'affirmer, de le dire, n'existe pas. Dans chacune de nos vies, les choses sont conduites, les choses sont dirigées, celles d'hier, celles d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour ça que nous devons avoir confiance et faire entièrement foi à Dieu, parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors ça, c'est une chose. Le hasard n'existe pas. Et à vie nouvelle, à nouvelle naissance, il faut réparation. Je voudrais vous dire, mes amis et mes frères et mes sœurs, toute conversion implique réparation. Le pardon de Dieu est acquis. Mais si nous avons fait du mal à quelqu'un, si nous avons troublé, volé, menti, molesté, dominé quelqu'un qui, vous le savez, a souffert, il y a quand même une démarche à faire. Il y a quelque chose à engager. Parce que ça ne peut pas rester comme cela. La personne qui a été peut-être la victime de certains propos de notre part, ou de certaines malveillances, ou de certaines violences de notre part, a besoin, finalement, que d'une libération. Mais plus encore que la victime, c'est celui qui est l'auteur, qui a besoin aussi de présenter ses excuses et de demander pardon, parce que tant qu'il ne l'aura pas fait, et peut-être jusqu'à la fin de ses jours, ce sera lui le prisonnier et l'esclave. parce que le ressentiment et la haine, ça ne marche pas. On est dans un cadre d'amour, de pardon et de grâce. Alors, je dis bien et je répète, à vie nouvelle, réparation s'impose. Et Paul va suggérer, au départ, à Onésime, au moment où il sortira de prison, eh bien de revenir auprès de son maître, de réintégrer la maison, de présenter ses excuses et de dire, eh bien voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pas souvent que les esclaves reviennent d'eux-mêmes dans la maison de leur maître. Parce que quand ils étaient partis. Alors, à ce moment-là, Onésime a peur, il a très peur, parce qu'il sait qu'il faut qu'il répare, il faut qu'il y ait une réconciliation. Et Paul, à ce moment-là, va rassurer Onésime. Et c'est le petit billet, c'est la petite lettre que nous avons devant nous qui fait office. Et heureusement qu'on l'a aujourd'hui. Parce que c'est elle qui va être l'encouragement, c'est elle qui va soutenir Onésime sur le chemin du retour pour demander pardon. Onésime, c'est un petit peu, en quelque sorte, d'une autre manière, mais la parabole du fils prodigue, hein, qui revient dans la maison du père. Et quand on revient avec la repentance, un cœur contrit, quand on revient véritablement conscient de nos fautes et que nous voulons réparer, eh bien le Père sera toujours là, le Père ou le Maître dans notre... Il sera toujours là pour nous accepter. Soyez-en sûrs, ça ne peut marcher que comme ça de toute façon. Autrement, on reste des malheureux. Alors Paul le rassure. Et ce petit billet est en quelque sorte un plaidoyer destiné à Philémon en faveur d'un retour et du pardon, afin que l'esclave converti soit bien accueilli, d'où le sens du verset 11 que je relis, « Qui, Onésime, qui autrefois t'a été inutile et qui maintenant est utile à toi et à moi. » On comprend mieux et on saisit mieux le sens et la signification du nom qu'il porte, « Onésime, utile. » Voilà. Si vous êtes dans l'attente, eh bien, d'un bébé qui doit arriver dans votre famille, appelez-le Onésime. Enfin, c'est une suggestion, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Mais vous saurez qu'il sera utile. Par sa conversion véritable, Onésime, l'esclave, devient chrétien. Mais aussi, il devient serviteur. Il l'était déjà en tant qu'esclave, mais maintenant les relations vont être autrement. Il devient serviteur, c'est-à-dire qu'il devient un disciple. Il devient aussi un frère pour son maître. Ah, on rêverait d'avoir que notre patron soit notre frère. Hein. Donc il devient un frère pour son maître et il va devenir, et il est déjà le fils spirituel de l'apôtre Paul, puisqu'il dira ceci, Paul dira, je te le renvoie lui, une partie de moi-même. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire quand des hommes et des femmes viennent à la nouvelle naissance, à la conversion. Et que nous avons été des pères et des mères spirituels. Parce que ce sont nos enfants. Ce ne sont pas des enfants de la chair, ce sont des enfants de l'esprit, en quelque sorte. Alors, je relis ce verset 10 qui va nous introduire maintenant dans ce que vous avez vu défiler il y a un instant. Paul à Philémon, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes Onésime. Et vous connaissez naturellement ce que nous avons dit il y a un instant. Alors, désormais, Onésime n'est plus Onésime, celui d'avant, le mal nommé, parce que finalement, eh bien, il s'appelait utile, mais il était inutile puisqu'il n'était plus là. Celui qu'on appelait, peut-être après son départ, après sa fuite, le propre à rien, vous savez. Il est converti, il n'est plus inutile, et il mérite vraiment son nom. Il est enfin lui-même, il est reconnu à sa juste valeur, il est devenu utile. Chacun d'entre nous, il doit y avoir une résonance au fond de notre cœur et nous dire, mais suis-je utile ? Suis-je utile ? Alors nous sommes utiles vraisemblablement dans toutes les implications de notre vie conjugale, notre vie familiale, notre vie sociale, mais notre vie spirituelle. Et c'est là toute la question qui doit se reposer, où en suis-je ? Quand nous nous sommes fait baptiser, nous avons répondu tout simplement à la question... que nous nous engagions à aimer le Seigneur, à lui obéir, à le servir tous les jours de notre vie avec la force qu'il nous communiquerait. On l'a dit les uns les autres. Hein. On l'a confessé publiquement même. Alors, il est devenu utile. Je veux être utile. Il était utile à son maître maintenant, il était utile à Paul, il était utile à tous les hommes, il était utile au monde, il était utile au royaume de Dieu, et il était utile à Dieu. Nous allons découvrir pour nous-mêmes le cadre d'une vie utile. Pour la jeunesse, parce que vous allez avoir des responsabilités. Ne les cherchez pas, elles viendront toutes seules. Mais vous allez avoir des responsabilités, parce que c'est Dieu qui appelle, et c'est Dieu qui choisit, et c'est Dieu qui envoie. Ça, c'est important de le dire. En quelque sorte, poser ce cadre, un schéma devant nous de vie utile, pour devenir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, pour devenir disciple, pour devenir authentique, pour être authentique, dirons-nous plutôt, pour être utile et également fidèle. Il s'agit d'un verbe, il s'agit d'un état, un verbe devenir, un état, eh bien, disciple, et de trois qualificatifs que j'appellerais moi plutôt des qualités, authenticité, utilité et puis fidélité. Alors on va voir cela ensemble. Dans cette présentation, il va y avoir, elle va être parsemée, émaillée d'une prière. C'est un auteur inconnu qui a écrit un beau poème que je vais mettre dans les thèmes que nous allons développer. Je le lirai tout simplement. D'abord, devenir. Devenir, c'est un verbe qui exprime de passer d'un état à un autre. Je suis devenu la nouvelle créature par la conversion. Et on ne peut pas servir le Seigneur, il faut que nous soyons convertis. Et bien convertis. Pas convertis pour nous-mêmes, mais convertis pour lui, pour sa gloire, pour l'aimer, et aussi l'amour des autres et l'amour des âmes. Devenir, passer d'un état à un autre. Alors si vous permettez, vous avez votre Bible, et ce sera probablement plus facile, on va voir quelques textes bibliques, parce que parler sans étayer sur les affirmations de la parole de Dieu, il manquerait quelque chose. Et je vous dis dans Marc chapitre 18 et au verset 3, vous pouvez écouter si ça va trop vite parce qu'il va y avoir quand même pas mal de versets. Il est dit ceci, c'est Jésus qui affirme, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Si vous ne vous... J'ai dit Matthieu, chapitre 18, verset 3, c'est ça? Pardon? J'ai dit Marc. Alors, c'est l'évangile d'avant. Je suis désolé, mais ça m'arrive quelquefois de me tromper. Alors, merci pour votre réactivité. Donc, Matthieu 18, verset 3... Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire si vous ne changez de vie, changez de direction, il ne s'agit pas de changer de religion, mais il s'agit de changer de vie, d'état de cœur, d'état d'esprit, c'est le Seigneur qui le fait, alors, et que si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut devenir simple, et nous sommes dans un monde tellement compliqué, un monde tellement complexe, un monde tellement difficile, où tout passe par la réflexion, l'analyse, le raisonnement et tout cela. Non, devenir comme des petits-enfants, ça ne veut pas dire que Jésus nous demande de retourner à l'infantilisme, mais de revenir avec la simplicité et la foi, tout ce qu'il peut y avoir de formidable chez un petit-enfant. Pour être, eh bien là, un disciple. Et là, je ne me trompe pas, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2 Corinthiens 5, verset 17. Et là, nous allons passer encore à une autre réflexion. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est converti, si quelqu'un appartient à Jésus de cœur, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne peut pas y avoir de composition dans la vie d'un chrétien qui veut être disciple avec les choses du monde, les choses anciennes, les pratiques anciennes, les vieilles habitudes anciennes, avec finalement, eh bien, épouser cette vie nouvelle. C'est pas possible, c'est incompatible. Jésus nous en parle quand il parle des vieilles outres, et des outres neuves. Vous savez ce qu'il nous dit ? Elles éclatent. Donc il faut véritablement quelque chose qui soit profondément marqué. Je suis devenu une nouvelle créature. Et peut-être tout le monde n'en sera pas convaincu, hein. Mais toujours est-il convaincu, peut-être en raison de, quelquefois, hein, nous ne sommes pas toujours et nous ne sommes pas parfaits, mais une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons bénir le Seigneur, de dire merci Seigneur, non seulement de ce que je suis une nouvelle créature, mais que je suis encore sur le chemin de transformation. Je suis en chantier, hein, actuellement, hein, mais le Seigneur fait son œuvre. Devenu nouvelle, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Colossiens, au chapitre 1er et verset 28, c'est presque une étude biblique que nous faisons, hein. Il est dit ceci, et encore une autre notion de ce que veut dire le mot devenir. Colossiens 1, 28. C'est lui que nous annonçons, c'est Jésus-Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors on est loin d'être parfait, mais nous sommes des êtres perfectibles. Et le Seigneur et le Saint-Esprit et la parole agissant au fond de nous-mêmes, nous tendons à aller, à aspirer à la perfection. Nous tendons à ressembler à Jésus. Voilà devenir. Alors, je voudrais simplement dire à ceux et celles qui ne se sont pas encore engagés, eh bien le Seigneur vous appelle à devenir une nouvelle créature. Il vous appelle à devenir, eh bien, comme un petit enfant avec la simplicité du cœur. Il vous appelle également à devenir un serviteur, un disciple. Parce que c'est votre vocation, c'est notre vocation. Alors, devenir quoi ? Eh bien, il s'agit de devenir un disciple. Et le mot disciple a le sens d'élève. C'est-à-dire celui qui reçoit un enseignement, d'où l'idée de discipline. Il y a cette notion de discipline. Peut-être qu'auparavant, avant de connaître le Seigneur, nous faisions n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Une vie désordonnée. Ce n'était pas le cas de tout le monde, mais peut-être ça a été le cas de certains. Alors toujours est-il que là, nous ne soumettons pas seulement aux hommes, mais nous soumettons à un Dieu qui pourtant est invisible, nous ne le voyons pas, mais nous avons confiance en lui et c'est lui qui va nous diriger dans un sens ou dans un autre. C'est la notion de la foi. Alors, nous sommes des élèves au pied du maître. Nous avons besoin de ressembler à Marie qui était là en train d'entendre la parole et qui se délectait de toutes les paroles merveilleuses qui tombaient de la bouche de Jésus et qui, véritablement, était profondément réjouie. Aimer la parole de Dieu, aimer la Bible, lisez la Bible, vous le savez. Je ne fais que répéter ce que beaucoup disent. Eh bien, un disciple, eh bien, c'est Jésus qui nous en parle dans Luc chapitre 6 et verset 40. D'abord, ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Et Jésus affirme, Luc 6, verset 40, il dit « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, et tout disciple accompli sera comme son maître. » Et si nous devons imiter quelqu'un, n'imitons pas les hommes, même s'ils nous paraissent formidables et extraordinaires, mais imitons le Seigneur Jésus. Nous avons tout dans la parole de Dieu pour en savoir sur ses prérogatives, sur son caractère, sur ce qu'il est en réalité. Et c'est à lui que nous devons regarder. Alors, à ce moment-là, vous savez qu'un disciple n'est pas plus grand que le maître. Ne jouons pas au maître. Ne jouons pas à plus d'importance que nous en avons. Ne jouons pas avec peut-être des dents ou des talents que Dieu nous aurait donnés. Restons humbles. Parce que Jésus a pu déclarer « Je suis doux et humble de cœur ». C'est comme ça que nous allons convaincre les hommes qui nous environnent, les hommes de notre temps. Mais s'ils voient des chrétiens qui sont orgueilleux, pédants, qui savent tout et qui connaissent tout, eh bien, nous allons avoir à véritablement comprendre ce que ça peut être la réjection, et ce n'est pas notre personne seulement qu'ils rejettent, mais c'est le message que nous portons, c'est la personne de Christ, et ne soyons pas des gens qui faisons du prosélytisme en forçant les choses. Ça n'a jamais bien porté. Jésus a été un modèle en la matière pour amener les hommes à devenir eh bien, des citoyens du royaume de Dieu. Toujours dans Luc, au chapitre 14, au verset 26-27, il y a quelque chose, une notion qui est importante, c'est qu'un disciple ne vit pas pour lui-même. Un disciple doit avoir comme prééminence au fond de son cœur, dans ses sentiments, l'amour de Jésus en premier. La prééminence, c'est d'aimer Jésus en premier. Écoutez ce qu'il nous est dit. Si quelqu'un vient à moi et ne me préfère à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Où sont les priorités? Où sont vos priorités? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Un disciple est un homme conséquent. Il suit son sauveur. Et ce qu'on a fait à son sauveur, il faut qu'il s'attende à ce qu'on lui fasse aussi. La moquerie, les rebuffades, les humiliations. Et moi, je bénis le Seigneur que nous vivons dans un pays de démocratie où il y a la tolérance religieuse. Mais ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Et nous pouvons bénir le Seigneur et nous devrions être dans la liberté qui est la nôtre, mais des témoins de Jésus-Christ, des ambassadeurs de Jésus-Christ beaucoup plus brûlants et beaucoup plus vibrants que nous le sommes. Ce n'est pas un reproche. Mais c'est malheureusement une constatation. Et puis, vous connaissez également dans Jean, au chapitre 8 et au verset 31, ce qu'il nous est dit là aussi. Toujours sur ce qu'est un disciple. Et là, c'est une belle parole, je l'aime beaucoup, assurément. Verset 31, 8, 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Mais alors, réellement mes disciples. Je suis à vous et vous êtes à moi. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez à ce moment-là la vérité. Et la vérité, eh bien, aura pour vertu de vous affranchir, de vous libérer, de vous donner une véritable liberté. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une belle image, je ne vais pas la citer, je ne vais pas la lire, hein, mais une belle image qui est contenue dans tout un chapitre. C'est dans Jean chapitre 15, quand il est question du cep et des sarments. Eh bien, un disciple, c'est ce sarment qui est attaché au pied de vigne. Et ils sont unis, et Jésus dira avec force répétition, il dira ceci, mais demeurez, si vous demeurez en moi, alors à ce moment-là, la vie, eh bien, cette sève divine, la vie de l'esprit, le souffle de l'esprit, la puissance de l'esprit, vous communiquera. Et Jésus en disant ça, pas seulement la puissance, pas seulement les dons, mais il parlera aussi de l'amour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Parce que rien ne se fait sans l'amour. Autrement, c'est travailler en vain. C'est travailler dans l'illusion. Alors, devenir disciple. Voilà deux positions. Et ma déclaration de foi, écoutez bien, c'est ce poème dont je vous avais dit, une partie de ce poème. Ma déclaration de foi, pensez-le au moment où je vais le lire, pour vous-même. Devenir donc son disciple. Je fais partie désormais de ceux qui n'ont pas honte. Et nul ne pourra me séparer de lui. J'ai franchi la ligne. Et je ne veux ni reculer, ni ralentir, ni relâcher, ni capituler, car je suis devenu son disciple. Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Je ne m'appartiens plus, je suis à lui. Nous allons voir maintenant l'authenticité. Devenir disciple, mais le contraire de l'authenticité, d'être authentique, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Et malheureusement, dans le monde religieux, l'hypocrisie existe. Et c'est triste et c'est dommage. C'est dommageable surtout pour l'honneur de Dieu. Authentique. Quand j'ai regardé le dictionnaire, la signification, c'est celle-ci, dont la réalité ne peut être contestée. Être authentique, c'est dont la réalité de votre vie, de vos paroles, de ce que vous êtes, eh bien, ne peut être contestée. Alors, pour ce faire, eh bien, on va voir ce que Paul nous en dit dans Éphésiens. Et dans Éphésiens, chapitre 4, il y a deux, trois versets qui nous renseignent sur ce qu'est l'authenticité. Le mot n'y est pas, mais le sens y est. Paul dira, Éphésiens chapitre 4, verset 1er, il dira « Je vous exhorte ». Et quand il est question d'exhortation, c'est « Je vous presse, je vous supplie, je vous demande, je vous conjure ». « Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, Paul le dit, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ne marchez pas en crabe. Ne marchez pas avec une apparence d'un côté et puis que le contraire soit dans votre dos ou devant. N'ayez pas un double visage et n'ayez pas un double langage. Il n'y a rien de plus préjudiciable au christianisme. Soyez ce que le Seigneur veut que vous soyez. Alors, marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée et il donnera quelques caractéristiques, quelques-unes, il y en a bien d'autres, en toute humilité et douceur. Si nous avons tendance à l'orgueil, demandons au Seigneur. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue, dit Jean-Baptiste, en parlant de Jésus. Si nous avons des tendances à avoir un tempérament impulsif, il nous est parlé de la douceur. Seigneur, donne-moi la douceur de caractère. Je m'emporte tellement rapidement. Je me mets en colère. Je suis, comme vous connaissez l'expression, je suis si souvent ensoupaulé. Seigneur, transforme-moi. Reprends-moi en sous-main par ton Saint-Esprit. Donne-moi le caractère de Jésus. L'humilité, la douceur. Avec la patience. Patient comme en explosif. Alors, il faut dégoupiller, enlever la mèche. Vous supportant les uns les autres avec amour, et dans une communauté, dans un couple, dans une famille, eh bien nous sommes tous confrontés avec toutes sortes de choses, mais nous avons vraiment besoin de nous supporter. Supporter, c'est voir les choses, c'est vivre les choses, mais en disant « Seigneur, aide-moi à continuer à aimer quand même ». Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, voilà ce que c'est d'être authentique, conserver l'unité. Si j'ai une mauvaise langue, si je suis toujours en train de gratter de droite et de gauche, alors à ce moment-là, je vais être un saboteur d'unité. Je vais être un destructeur de la paix. Parce que, et vous avez vu ce qu'il y a de marqué derrière moi, je vous laisse la paix. Alors si il nous l'a laissée, c'est à nous de la garder. On est d'accord et de ne pas nous laisser voler. Et quelquefois, à commencer par nos propres tempéraments et nos propres caractères. Authentique. Parce que vous avez remarqué avec moi, il y a une notion de cause à effet. De cause à effet, c'est le fruit. Un disciple, c'est un homme qui porte des fruits, et des bons fruits. Parce que il est sur une racine, il est sur un tronc qui est juste, qui est sain, qui est pur. Et si nous portons des fruits pourris, si nous portons des fruits qui sont véreux ou malades, alors à ce moment-là, les gens qui vont y goûter diront « mais c'est pas un chrétien celui-ci ». En tous les cas, il nous dit qu'il est disciple de Jésus, il est disciple de qui ? Le fruit, et ça c'est une notion très importante dans la vie de l'Église. Seigneur, donne-moi de porter des fruits comme toi. Tu es véritablement porteur de bons fruits. Alors la prière serait celle-ci. Je continue mon poème. Ma volonté est d'être vrai. Ouais, ma volonté est d'être vrai en tout et partout. Mon passé est racheté, mon présent est préparé, mon avenir est assuré. De quoi on se plaint ? C'est vrai ? Attendez, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Vous dormez ou... Mon passé, écoutez, est racheté, mon présent est préparé, mon avenir est assuré. Mais merci Seigneur, parce que en toi et avec toi, je ne crains rien. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus ? Surtout que la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Eh bien, on est en train d'en parler. Fini de vivre au rabais, les garçons et les filles. Non. Dieu a quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Fini de vivre dans la médiocrité, de marcher à vue ou de penser à l'étroit, de soigner mes petits bobos. Pour vivre en noir et blanc. Vous savez que depuis quelque temps, il y a la couleur à la télévision. Avec une vision étriquée. Fini aussi une mentalité à l'esprit mesquin, fait de calculs radins et de buts restreints. Ça vous va ? Eh ouais, il faut vivre. Il faut vivre dans la liberté de Christ. Il faut vivre et respirer l'air du ciel, mes frères et sœurs. Parce que c'est quelque chose de formidable et c'est ainsi que véritablement vous serez communicant, communicateur de vie et d'espérance et que les gens pourront dire « Ah, il a, elle a du sel. » Et le sel, c'est pour donner de la saveur. C'est pas un repoussoir. Alors, si vous en prenez à grande cuillerée, vous allez voir que vous allez... Mais en tous les cas, le sel est nécessaire dans les aliments. Et il donne soif. Et nous avons besoin, en tant que disciples de Jésus-Christ, de donner soif au monde qui est autour de nous. Et une jeunesse, comme on l'a vu chanter hier, comme on le fait aussi à Saint-Nazaire, eh bien vous savez, c'est quelque chose qui est remarqué. Ça a même été remarqué par Monsieur le maire hier. Il est passé et il s'arrête devant le... Il regarde comme ça. Et puis à un moment donné, il ne me connaît pas, moi je ne le connais pas. Enfin, je l'ai vu quand même en photo, mais moi il ne m'a pas vu en photo. Mais toujours est-il qu'il vient vers moi et il me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « C'est très bien. » Alors je lui dis « C'est l'église évangélique, Rudy, etc. » Et puis je me suis présenté tout simplement. Ah, il m'a dit « C'est bien. » J'avais presque dit « Vous voulez chanter avec nous ?» Non. Merci Seigneur. Parce que vous savez, cet homme qui a une autorité, une responsabilité, il a vu qu'il y avait un groupe de jeunesse, on était 40-45 dans la rue, des garçons et des filles qui chantaient de tout leur cœur. Mais c'est ça ce que le monde a besoin. Si nous faisons une chorale et que nous chantons en disant « Seigneur, je suis joyeux, je suis joyeux. » Vous croyez qu'on va donner envie? Allez, utile, devenir disciple, authentique, utile. Le mot « utile » a pour sens qui sert à quelque chose. Et a pour contraire la vanité. Je fais des choses, je fais beaucoup de choses, mais ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Qui sert à quelque chose, qui rend service, ou qui contribue, et qui participe à. Mes amis, quel que soit notre âge, cette église, et comme toutes les autres églises, a besoin d'avoir des participants actifs. Nous ne sommes pas des consommateurs, mais nous sommes des consomme-acteurs. Ça change les choses. Et moi, je me réjouis qu'il y ait une implication de la jeunesse dans la vie de l'Église. Et je me réjouis aussi qu'il y ait une implication dans différents services, peut-être différents des uns des autres, mais tout le monde a sa place. Et moi, je voudrais vous dire que tout le monde a sa place. Ne restez pas dans l'ombre. Et vous auriez tort parce que vous allez perdre quelque chose. Et si vous ne prenez pas votre place, d'autres prendront votre place. Et c'est dommage parce que vous avez une vocation. Et vous avez des aptitudes. Alors, dans Actes, je vais bientôt finir. Non, parce que quand je suis parti, je ne sais plus comment faire pour arrêter. Le problème, il est là. Ma femme me le dit souvent, mais bon. Actes, chapitre 18, verset 27. Écoutez, un personnage de la Bible qui s'appelle Apollos. Et il est dit de lui, donc acte 18, 27, « Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien recevoir, de bien le recevoir. » Alors écoutez bien la suite. « Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu. » Je dis bien par la grâce de Dieu, pas par sa volonté. Hein, pour dire « Tiens, j'arrive ici, moi je vais essayer de bricoler un petit peu là où je suis. Hein. » Non, c'est pas ça. « Par la grâce de Dieu, il se rendit très utile. » À ceux qui avaient cru. Non seulement nous sommes appelés à nous rendre utiles, mais nous sommes appelés à nous rendre très utiles, mais sans arrière-pensée dans la motivation. Quand je rends service, il faut bien dire que je dois le faire sous le regard de Dieu, et non pas comme sonnant de la trompette pour que tout le monde vienne me dire « Ah ben dis donc, mais sans toi, c'est pas possible. Et si tu n'étais pas converti, mais le ciel ne serait plus le ciel. » ça fait plaisir quand vous entendez ça. Non, mais on baisse le niveau. C'est nos motivations qui sont importantes. Si je fais les choses, je ne fais pas pour les hommes. Enfin, ça peut être à destination des hommes. Je ne fais pas pour moi-même, pour que l'on vienne me faire des compliments, parce qu'à ce moment-là, j'ai ma récompense, comme dit Jésus. Mais je le fais authentiquement pour la gloire de Dieu et pour aussi le bénéfice de mes frères et des sœurs et puis de tous ceux que je ne connais pas, auxquels je peux être utile. Alors, il a été Onésime autrefois inutile, mais maintenant il est utile à toi et à moi. Alors toujours dans ce poème, je dis ceci, c'est ma prière encore. Alors mon désir premier de ma vie, c'est d'être utile. Maintenant que le ciel est mon but, même si mon chemin est ardu et mon sentier étroit, mon guide est fiable. Sa parole est sûre, son exemple enviable. Mais ma mission désormais est claire, je sers. Aujourd'hui, je sers. Et aujourd'hui, vous servez. nous servons tous ensemble. Je termine avec fidèle. Fidèle a pour signification qui tient ses engagements et en qui l'on peut avoir confiance. Fidèle, c'est être attaché, constant et persévérant. Vous mettez ça dans toutes les dimensions de la vie, que ce soit celle du mariage, de la famille, du travail ou de la foi, c'est être attaché, constant et persévérant. Dans Luc, et dernière citation, dernière au pluriel, je viens vous le dire. Chapitre 19, verset 17, il y en a plus que trois. Pas trois épîtres, trois versets. Écoutez bien la récompense de celui qui est fidèle. Jésus lui dit à ce serviteur, c'est bien bon fidèle, serviteur, parce que tu es fidèle en peu de choses. Ouais, mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas ce qui nous attend de l'autre côté, parce que nous aurons été fidèles, persévérants et constants dans notre vie, et dans notre vie à son service. On ne peut pas se l'imaginer. Les choses de la terre, les gratifications de la terre, les applaudissements de la terre ne paraîtront plus, ils vont pâlir, ils disparaîtront. Et on dira, mais qu'est-ce que c'était que tout cela? À côté de ce qui nous attend de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il n'y a qu'un mot qui caractérise, eh bien le royaume des cieux, c'est la gloire. Et c'est un mot qui est, dont on a du mal tellement à comprendre, sa puissance et sa grandeur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 1 à 2, 1 Corinthiens 4, et il a raison, Paul, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des serviteurs, ce qu'on demande des disciples, alors ce qu'on demande d'eux, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Trouvé fidèle. On se réjouit dans l'Église quand elle fonctionne, d'une manière ou d'une autre, quand on a délégué une responsabilité et qu'on sait, et que l'on peut partir tranquille et que l'on sait que la chose sera faite. Moi, je bénis d'avoir des collaborateurs qui sont fidèles. Merci Seigneur. Et je le dis aujourd'hui. Parce qu'ils sont là à leur place et ils font. Non pas qu'ils m'obéissent, mais ils obéissent au Seigneur de tout cœur. Et quand il y a ceci et cela à faire, je peux dire, eh bien voilà. C'est comme ça, même dans les petites choses. Hein. Les portes fermées, les lumières et le chauffage éteint. Eh oui. Parce que finalement, si les choses ne sont pas faites, parce que ça commence comme cela. Hein. Si on est fidèle dans les petites, on sera fidèle dans les grandes. C'est normal, parce que si on dit d'éteindre les lumières ou de fermer les portes, mais c'est toute la communauté qui va en pâtir, c'est pas moi, et c'est dommage. Alors soyez fidèles dans les petites choses, et le Seigneur vous en confiera de plus grandes. Et puis une dernière proposition dans le livre de l'Apocalypse sur la fidélité, alors elle est très belle parce qu'elle implique peut-être des choses qui sont très difficiles aussi. Apocalypse 2, chapitre 2 et verset 10. Voilà, dans des temps de persécution, des temps où il y a véritablement des choses difficiles dans la vie de l'Église, des chrétiens, une Église souffrante, une Église combattante, alors nous pouvons connaître des choses difficiles. Il est dit ceci, l'Esprit dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est pas la couronne de laurier des Jeux Olympiques, parce que celle-ci, deux jours après, elle se flétrit. Heureusement qu'ils ont donné quand même la petite médaille d'or à côté pour s'en souvenir. Et la dernière prière de ce poème. Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un disciple fidèle face au sacrifice. Je ne flancherai pas avec ta force et avec ta grâce. Je ne m'égarerai pas dans les méandres du conformisme ambiant. Et c'est ça votre problème à la jeunesse. Comme nous, nous avons eu le même problème en notre temps. On n'est pas encore un vieillard, mais enfin, toujours est-il qu'on se souvient qu'on a eu notre temps, et il y avait aussi les tentations, toutes sortes de choses. Alors je rappelle, votre problème et votre lutte, elles portent là-dessus. Eh bien, ne vous égarez pas dans les méandres du conformisme ambiant. On ne m'achètera pas. Je ne me compromettrai pas. Encore moins, ne me détournerai. Je ne me laisserai pas duper. Ni ma foi se diluer. Et quand il reviendra, et je voudrais vous dire que Jésus revient bientôt, nous l'attendons, il me reconnaîtra parce que je n'aurai pas caché mon drapeau, j'aurai annoncé la couleur, en un mot, Je suis et je resterai son disciple, vrai, utile, fidèle. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va prier quelques instants et je vous passe un petit diaporama tout de suite après, rapidement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Merci pour Onésime. Merci Seigneur pour Utile. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à devenir. Tu nous as appelés à devenir disciples, pas disciples d'une église, pas disciples d'un maître, mais disciples de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu veux que ce disciple-là que je suis, eh bien soit authentique, soit utile et il soit fidèle. Bénis Seigneur ces garçons et ces filles, ces jeunes gens et ces jeunes filles. Bénis-les Seigneur abondamment. C'est notre prière, c'est la prière de l'église de Saint-Nazaire pour tous nos jeunes. Accorde-leur ta grâce, remplis-les de ton Saint-Esprit. Donne-leur un zèle qui soit un zèle inspiré du Saint-Esprit. Oh, nous te remercions et nous te bénissons. Et nous les confions aujourd'hui, Seigneur, pour qu'ils aillent loin. Qu'ils fassent, Seigneur, ce que toi tu as décidé, Seigneur, qu'ils fassent. Et qu'ils deviennent véritablement, dans l'avenir, eh bien, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils paraîtront devant la gloire de Jésus, ils puissent entendre « Viens, entre, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Merci Seigneur. Amen.